Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican.
La justice vaticane scrutée à la loupe, l'année judiciaire 2012 a pris fin ce samedi. Le Vatican s'est félicité de ses avancées dans la lutte contre le recyclage. Dans son rapport, le promoteur de justice du Vatican a aussi insisté sur certains points faibles. L'opposition au mariage pour tous se prépare à une manifestation qui fera date. C'est en effet ce dimanche que des centaines de milliers de personnes accourant de toute la France vont se réunir à Paris, mais aussi dans d'autres villes européennes. Nous avons donné la parole à Erwan Lemoredec, blogueur catholique de Cause Toujours. Nous retrouverons également Sœur Catherine Aubin et son livre pour Dieu, l'ouvrage de cette semaine « Vivre ensemble la fin du monde ». Enfin, le commentaire de l'évangile de ce dimanche avec le Père Montavi. Bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican. Le prince Albert II de Monaco et son épouse, la princesse Charlène, ont été reçus samedi matin au Vatican par le pape. Le colloque privé a duré une quinzaine de minutes. Outre l'importante contribution que l'Église catholique offre à la vie sociale de la principauté, ces entretiens cordiaux ont permis d'évoquer certains points de la situation internationale liée au développement harmonieux des peuples et à la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Le pape a parlé en français avec ses hôtes. Les princes monégasques ont offert au pape un livre et une peinture consacrés à l'un de leurs ancêtres. Le pape leur a offert, lui, un dessin représentant un projet jamais réalisé de la basilique Saint-Pierre. L'année judiciaire 2013 de l'État de la Cité du Vatican est officiellement ouverte. Dans son rapport d'ouverture, le promoteur de justice, l'avocat Pier Francesco Grossi, a mis en exergue l'État et le fonctionnement de la justice vaticane en 2012. Ses avancées, notamment dans le domaine de la lutte contre le recyclage d'argent sale, mais aussi l'harmonisation du droit canon aux standards européens. Bernard de Cotigny.
2012 a été une année clé en termes de justice au Vatican. C'est d'abord l'année de vérification et d'adaptation de la législation vaticane aux normes internationales et de l'Union européenne. Pier Francesco Grossi rappelle ainsi qu'une série de normes législatives promulguées en 2012 sont venues renforcer quatre lois de 2010, notamment celles sur la lutte contre le recyclage émanant d'activités criminelles et contre le terrorisme financier, et celles concernant la fraude et la contrefaçon de monnaie et de billets de banque en euros. D'autres considérations moins positives ont été par contre avancées par le promoteur de justice, notamment le fait que les avocats exerçant au Vatican, dans beaucoup de cas, n'ont pas une connaissance suffisante du droit du Vatican, mais à cela s'ajoute aussi, pour ces professionnels qui viennent de l'extérieur, une méconnaissance absolue du droit canon, a insisté le promoteur de justice. Ainsi propose-t-il, pour pallier à ces lacunes, des cours de spécialisation et de mise à jour des connaissances. Pier Francesco Grossi, dans son rapport, n'a pas éludé le procès de Paolo Gabriele, l'ex-majordome du pape, mais aussi celui de Claudio Sciarpelletti, deux affaires pénales qui ont permis la mise en activation du bureau du juge de l'exécution pénale. Aujourd'hui, 6 affaires sont encore en cours de jugement par la justice du Vatican, 5 affaires ont été transmises par la justice italienne et une par la Pologne.
Bernard de Cotigny. Ce dimanche matin, le pape présidera, comme chaque année au mois de janvier, une messe lors de laquelle il baptisera 20 nouveau-nés dont les parents travaillent au Vatican, à la radio, mais aussi au musée ou à la secrétaire d'État. La célébration aura lieu dans la chapelle Sixtine et une attention particulière sera portée à tous les enfants qui souffrent de maltraitance, de faim ou de maladie. L'opposition au mariage pour tous fourbit ses armes et se prépare à une manifestation qui fera date. C'est en effet ce dimanche que des centaines de milliers de personnes accourant de toute la France par bus et TGV spécialement affrétés vont défiler à Paris au nom du mariage et de la famille. D'autres manifestations pour les Français de l'étranger sont également prévues à Bruxelles, Londres, Madrid, Barcelone, Rome, Libreville, Washington et Jérusalem. Après Mgr Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille, et Mgr Bernard Potvin, porte-parole de la Conférence épiscopale de France, Radio Vatican donne la parole à Erwan Lemoredec, avocat et blogueur catholique de Cause Toujours. Ce chrétien engagé, qui sera au nombre des manifestants ce dimanche, dénonce ce qui apparaît en filigrane de ce projet de loi. c'est-à-dire une morale outrancièrement relativiste doublée d'un individualisme forcené. Il explique au micro de Magnolia Affigy les raisons qui le poussent à manifester ce dimanche.
Il y a vraiment à l'œuvre un individualisme assez forcené, c'est-à-dire qu'il est très difficile de faire comprendre ou de faire partager sur ce sujet-là un sens du collectif. Ce que je fais, moi, ne me concerne pas que moi et a un impact sur la société que nous formons. C'est vrai sur l'euthanasie, où effectivement, qui est un sujet très différent, mais qui a la même logique. Ça n'est pas quelque chose qui n'impacte que la personne. On est vraiment sur le caractère relativiste, c'est-à-dire mon choix porte sa légitimité à lui tout seul et n'a pas à être contrarié par des règles de vie en société.
Pour quelles raisons allez-vous manifester ce dimanche ?
Moi, je vais manifester essentiellement pour les droits de l'enfant. Le mariage civil entre deux personnes de même sexe, ça se discute. On peut s'y opposer, mais ça n'est pas l'élément fondateur de mon opposition. En revanche, il est certain que l'affiliation, ça découle de façon logique du mariage, en tout cas en droit français, et qu'aujourd'hui, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas accepter que le législateur pose comme une norme ce qui est un mensonge, c'est-à-dire qu'un enfant soit le fils de deux hommes, si c'est un garçon évidemment, ou le fils de deux femmes. Qu'il soit élevé par deux personnes de même sexe, c'est une chose. Que le législateur vienne dire aujourd'hui il est fils de deux hommes, pour moi, ça n'est pas possible. Et qu'une loi se fonde sur un mensonge, je trouve ça mortifère et inacceptable. Par la même occasion, c'est surtout dangereux pour l'enfant. Évidemment, les pédopsychiatres ne sont pas tous unanimes, mais j'ai confiance dans un certain nombre d'entre eux qui se sont exprimés et qui soulèvent que pour la construction psychique de l'enfant, lui plaquer comme schéma une filiation dont il saura très bien qu'elle est impossible et quelque chose de perturbant. Et je trouve que dans ce débat, on a vraiment fait passer au second plan l'intérêt de l'enfant pour ne penser qu'aux adultes. Mettre en avant l'égalité, ben c'est ne penser, c'est non seulement faux, mais c'est ne penser qu'aux adultes et oublier l'enfant.
Erwan Lemorodec, interrogé par Magnolia Affigy. Un entretien retrouvé bien sûr sur notre site internet www.radiovaticana.va. Dimanche 13 janvier, on célèbre la journée mondiale des migrants et des réfugiés. L'Église est attentive à ceux qui quittent leur pays à la recherche de meilleures conditions de vie pour fuir la violence, l'insécurité et la misère, et elle ne cesse de s'adresser aux pays d'accueil pour qu'ils ouvrent leurs portes en signe de solidarité. Cependant, elle est bien consciente que l'accueil des étrangers suscite des réticences, y compris chez les catholiques, surtout dans le contexte actuel de crise qui engendre la peur et la méfiance. Cette année, le pape a choisi de placer cette journée sous le signe du pèlerinage. Dans son message, Benoît XVI renouvelle son appel à l'hospitalité. Interrogé par Olivier Tosseri, le père Fontaine, directeur de la pastorale des migrants au sein de la CEF, revient sur l'importance de cette journée dans un contexte marqué par une recrudescence des tensions communautaires en France. Les migrants, loin d'être une menace, peuvent, dans le cadre de la nouvelle évangélisation promue par l'année de la foi, être un facteur de réveil des communautés chrétiennes dans nos sociétés sécularisées.
D'abord de rejoindre cette réalité importante aujourd'hui des migrants qui sont dans le monde, puisque ça représente plusieurs centaines de milliers de personnes, et surtout de rendre attentifs les communautés chrétiennes ici pour créer un accueil et une rencontre avec ces migrants qui viennent de tous les continents, et ensuite de prier avec eux, ici ou en communion avec eux, pour cette journée-là.
Est-ce que ce thème de la migration, ces enjeux liés aux questions de migration ont évolué au fil du temps ?
Oui, il y a eu des évolutions, puisque si je me reporte aux années 60, notre société, au moins en France, était beaucoup moins marquée par la crise. Donc dans ces années 60, il y avait possibilité pour les migrants d'avoir accès au travail et de pouvoir envisager des va-et-vient avec leur pays d'origine. Avec la crise du travail, du logement et tout ça, pour eux, cette vie est beaucoup plus difficile et ça entraîne une frilosité dans l'opinion publique en France. Alors aujourd'hui, il y a un travail plus important de la part de l'Église catholique pour faire auprès des chrétiens un travail d'éducation pour que les peurs ne soient pas une frontière nouvelle dans l'accueil des migrants et des réfugiés.
Comment lier aujourd'hui migration et nouvelle évangélisation ?
pour les migrants, ceux qui sont de l'Église catholique peuvent ici venir et être vraiment bousculés, voire choqués par la façon dont notre société peut les accueillir ou considère la démarche de foi. Donc il y a à soutenir ces migrants qui partagent la vie chrétienne et ensuite de trouver les mots avec eux pour que dans cette société nouvelle, ils puissent témoigner de leur foi pour eux-mêmes et en même temps aussi dans les communautés chrétiennes ici, de pouvoir rendre compte d'une façon originale de leur vie de foi. Donc ces migrants venant d'ailleurs et de traditions chrétiennes peuvent aujourd'hui renouveler ou dynamiser les communautés chrétiennes. Deuxièmement, pour la nouvelle évangélisation, un certain nombre de migrants ne partagent pas la foi chrétienne, ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de la part des chrétiens ici à porter de l'estime aux différentes traditions religieuses par l'accueil, la rencontre et le dialogue. Et ceci est très important dans la société française, surtout à propos de ceux qui partagent la foi musulmane. Que les chrétiens soient des facteurs de dialogue, de rencontre, et non pas des barrières supplémentaires.
Des propos recueillis par Olivier Tosseri. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Le livre Pour Dieu cette semaine présente l'ouvrage d'un jeune philosophe qui nous invite à revenir à l'essentiel en méditant sur la fin du monde. Son nouveau livre « Vivre ensemble, la fin du monde » est audacieux. Il se demande comment bien vivre dans un monde dont on pressent qu'il court vers sa fin. Sereinement, Martin Stephen se prend acte du fait que la fin du monde est en marche et celle-ci jette sur nos vies une lumière nouvelle qui en révèle le sens profond, écrit-il, et qui esquisse un art de vivre pleinement mais comme au second degré. En effet, au moment de quitter cette vie, l'urgence ne sera-t-elle pas de se réconcilier ? Martin Stephens est père de 3 enfants et enseigne la philosophie en classe préparatoire littéraire à Metz. Il est l'auteur d'essais sur Nietzsche et Simone Veil et il a publié l'an dernier un petit traité de la joie. Il est interrogé par Sœur Catherine Aubin.
Martin Stephens, votre dernier livre s'appelle « Vivre ensemble, la fin du monde ». Un peu comme s'il y avait 2 parties dans votre titre, « La fin du monde » et ce verbe « vivre » et « vivre ensemble ». Pouvez-vous nous expliquer ?
En réalité, il s'agit de prendre acte du fait que l'homme moderne ou l'homme contemporain sait qu'il trace sa route dans un monde qui ne fait plus sens. La fin du monde, ça n'est pas simplement ce qui nous a permis de nous donner quelques frayeurs fin 2012. La fin du monde, c'est la fin d'un monde partagé, la fin d'un monde qui fait sens. C'est la découverte de l'extrême précarité qui est celle de notre condition. Nous avons les moyens de détruire ce monde à grande échelle et nous avons aussi les moyens de faire un monde qui a été déserté par le bon sens élémentaire, face à un tel monde qui nous agresse, eh bien on pourrait donner dans la peur, dans la haine, on donnera nécessairement dans la colère. Mais le but est d'abord d'accueillir cette situation qui nous est demandée de vivre, ce chaos qui nous est demandé d'endurer, et de le vivre ensemble, donc dans l'ouverture plutôt que dans la claustration.
Alors justement, Martin Stephens, vous proposez 6 pistes. 6 pistes dans ce livre pour vivre cette fin du monde.
Oui, en effet, si l'on part du fait que ce monde se présente à nous comme un chaos, et bien comme une nuit, il est possible de tenter d'imaginer des sillons lumineux au cœur de cette nuit. Et même, je dirais que c'est notre défi et notre tâche. La tentation serait de penser qu'il faut attendre que les conditions soient réunies pour aimer le monde. Or, au contraire, l'amour s'invente, l'amour se donne toujours par surcroît. Et donc, ce monde n'est sans doute pas aimable, mais c'est précisément pour cela qu'il a besoin de notre amour. Et donc, ces 6 pistes, en effet, c'est pas, par exemple, pour en prendre une, c'est le chant. Le chant, je crois que c'est beaucoup plus qu'une activité qu'on peut faire de temps en temps. Le chant, c'est une attitude existentielle fondamentale, car le chant est capable d'accueillir la déchirure, de l'accueillir en son sein et de créer une unité à partir de cette déchirure et sans rien renier de la déchirure. Je crois que c'est en effet le défi. La tentation serait de soit se dire que plus rien ne vaut la peine, ou soit de nier et de tomber dans un optimisme niais. Et j'aime bien cette idée que par le chant, nous pouvons rendre justice à notre désespoir sans toutefois si enfoncé, puisque le champ est adressé, puisque le champ est un ressurgissement.
Martin Stephens, interrogé par Catherine Aubin. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Et c'est maintenant le moment de passer aux commentaires de l'Évangile de ce dimanche 13 janvier, le baptême de Jésus. Évangile selon saint Luc, chapitre 3, versets 15 à 22. Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Écoutons le commentaire du père Pascal Montavi.
Nous fêtons aujourd'hui le baptême de Jésus. Mais pourquoi Jésus se fait-il baptiser ? Pour nous, le baptême signifie la rémission de tout péché et la naissance à la vie nouvelle par laquelle l'homme devient fils adoptif du Père. Mais pour Jésus, tout cela n'est pas nécessaire. Il n'a jamais péché et, dès le sein de Marie, il est pleinement fils du Père. Le baptême de Jésus doit donc se comprendre différemment. Voyons cela en trois temps. Tout d'abord, dans le passage parallèle en Matthieu, Jésus répond à l'objection de Jean-Baptiste qui considère que c'est Jésus qui devrait le baptiser et non l'inverse. Jésus répond « C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice ». Ainsi donc, Jésus se révèle comme celui qui accomplit l'Ancien Testament. De même que Moïse a fait traverser la mer Rouge aux Hébreux, de même que Josué leur a fait traverser le Jourdain, c'est maintenant Jésus qui passe par le Jourdain afin que nous tous, nous puissions non plus simplement entrer dans la terre promise, mais dans le royaume des cieux. Jésus accomplit les promesses de l'Ancien Testament, il ouvre le chemin vers la vie éternelle. Ensuite, Jésus annonce sa passion. Il dira plus tard « Je dois être baptisé d'un baptême et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé ?» Le baptême de Jésus préfigure donc la passion. Il est mort et résurrection. Telle est la signification de l'eau du baptême. L'eau donne à la fois la vie et la mort. En effet, sans eau, il n'y a pas de vie. Mais l'eau peut aussi engendrer la mort, comme par exemple pour le déluge au temps de Noé. Jésus baptisé, c'est donc Jésus qui se révèle comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Telle est d'ailleurs la prédication de Jean-Baptiste au Jourdain dans l'Évangile selon saint Jean. Enfin, le baptême de Jésus nous plonge au cœur du mystère de la Trinité. Le ciel s'ouvre pour laisser l'Esprit-Saint, sous l'apparence d'une colombe, descendre sur Jésus. Une voix venue du ciel se fait entendre. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » La mission de Jésus vient du Père et c'est l'Esprit-Saint qui en témoigne. Jésus manifeste ainsi son obéissance. Il accepte la mission qu'il a reçue et que le Père lui a confiée. Et c'est à partir du baptême que Jésus commence sa prédication publique. Là encore, Jésus nous enseigne « Le baptême est ce don de l'Esprit-Saint qui nous engage à servir Dieu de manière active au sein de l'Église. Il est un point de départ qui est à la fois un don et une mission. » Le baptisé est celui qui participe à la liturgie de l'Église. Il peut recevoir les sacrements. Le baptisé s'engage ainsi à mener une vie sainte et à exercer la charité. En se faisant baptiser par Jean-Baptiste, Jésus accepte donc de se laisser compter parmi les pécheurs alors qu'il porte le péché de la multitude. Il inaugure sa mission et annonce sa passion. Il nous dévoile ainsi le sens de notre baptême, témoigner de l'amour de Dieu au milieu des hommes. En ce jour où nous fêtons le baptême de Jésus, puissions-nous être pleinement fidèles à la grâce de notre propre baptême.
Ainsi prend fin ce magazine. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.radiovaticana.va et sur Facebook à l'adresse Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain où que vous soyez. When someone looked at me and saw what no one else can see, how good it was to hear a gentle word.